quand j'ai préparé cette nouvelle étude, j'étais impressionné de penser que ces paroles ont été rédigées il y a environ 2700 ans et que les rouleaux ont été préservés. J'ai vu moi-même un des seuls rouleaux que l'on peut regarder des manuscrits de la même ordre, parce que la plupart sont préservés, et c'est justement Ésaïe. C'est un des manuscrits les mieux préservés depuis le temps de l'Antiquité. Alors, avant de commencer à lire le texte aujourd'hui, on va juste faire une petite révision, parce qu'on a vu que le prophète Ésaïe commence en disant « la vision d'Ésaïe ». Et je vous ai rappelé que « vision » a deux sens. C'est ce que l'on voit de nos yeux, c'est la vue, on contrôle sa vue, donc c'est ce qu'on voit. Mais il y a aussi le mot « vision » qui veut dire, c'est un peu l'avenir, quel est votre parti politique, par exemple, pour dire quelle est ma vision, ce que je veux voir arriver, donc c'est futur. Et dans les prophètes, on a les deux, parce que les prophètes mettent en fait, ils parlent plus du présent que du futur, en fait, parce qu'ils essaient d'ouvrir les yeux de ceux qui écoutent, pour qu'ils voient vraiment la situation du pays. Ils se font des illusions, mais le prophète dit, mais regardez bien, regardez. Et il s'ensuit la partie future, si vous ne vous repentez pas, voilà ce qui va arriver. Si vous vous repentez, c'est une autre chose qui va arriver. Donc il y a souvent deux visions différentes du futur. Et donc, j'ai dit aussi qu'Ésaïe s'adresse surtout à Juda et à Jérusalem, le royaume du sud. Le royaume du nord est sur le point de disparaître, embarqué, déporté en Assyrie. Et c'est comme si Ésaïe dit, mais attention, si vous ne vous repentez pas, vous allez risquer la même chose. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec Babylone un siècle plus tard. Donc, il s'adresse à Juda et à Jérusalem, et la partie qu'on a vue la semaine dernière, c'était comme une sorte de mise en scène de tribunal. Parce que il commence au verset 2, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. » Et la première chose qu'on a vue, c'était tout un réquisitoire où Dieu a accusé le peuple de beaucoup de choses. Le verset 4 est très clair à ce sujet. Le peuple a abandonné l'Éternel. Le peuple a méprisé le Saint d'Israël. Le peuple a fait volte-face, oui, lui a tourné le dos, selon les différentes traductions. Terribles accusations. Et que ça continue pendant pas mal de versets. Mais, d'un seul coup, le même Dieu prend la parole pour la défense. Et cela, on le voit au verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel, car si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et on a vu ces deux aspects du caractère de Dieu, qui est à la fois un Dieu terrible et saint et juge, et dont il faut avoir peur, dans le bon sens, avoir crainte de l'Éternel. Mais Dieu est aussi un Dieu de grâce et de miséricorde. Et les deux sont là en même temps. D'ailleurs, quand on pense au Nouveau Testament, il n'y a que deux expressions, il me semble, où on dit Dieu est quelque chose, Dieu est lumière, donc sa sainteté, et Dieu est amour, sa miséricorde. Donc on le voit déjà dans ce premier chapitre, du prophète Ésaïe. Mais ce matin, on va aller plus loin, et en fait, on va revenir en arrière un moment, parce que je vais lire d'abord le texte. Voilà. En fait, on va le voir en deux parties. Je vais lire d'abord du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, et dans un deuxième temps, je vais lire le début du chapitre 2. Alors, je lis le texte, Ésaïe 1, chapitre 1, verset 21. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle a été remplie d'équité, la justice y habitait, mais maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents, les cadeaux, et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec la potasse, j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Je rétablirai les juges tels qu'ils étaient autrefois, tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Et après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. Et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir, ou rougirez à cause des jardins d'où vous faites vos délices, car vous serez comme un térébinte au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. Et l'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble. Il n'y aura personne pour éteindre. Donc là, voilà un peu le découpage de cette partie, du verset 21 à 23, l'infidélité et la culpabilité d'Israël. Ensuite, qu'en pense le grand chef, le maître de l'univers? Et en partie, ce qu'il pense, c'est Dieu pardonne, purifie, sauve et restaure. Mais certains périront par leur propre faute, notamment par l'idolâtrie. Voilà un petit peu le découpage de ce texte. Donc, et Ésaïe s'adresse d'abord au peuple de son époque. Et j'avais dit la semaine dernière qu'il fallait d'abord comprendre ce qu'il voulait dire à son époque avant de dire mais qu'est-ce qu'il dit à notre époque. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder quand on lit un texte de l'Ancien Testament. Et par deux fois, il parle de cité fidèle. Il en parle au verset 21 et il dit « La cité fidèle est devenue une prostituée. » Et au verset 26, il dit le contraire, et après cela, on t'appellera, sous-entend de nouveau, ville de la justice, cité fidèle. Donc il y a un appel au changement, et le Seigneur va intervenir. J'ai mis plusieurs verbes, pardonner, purifier, sauver, restaurer, on va voir tout cela dans le texte. Et quand on dit cité fidèle, c'est parce que le peuple très très souvent est comparé, c'est sous-entendu ici, à l'épouse de Dieu, la relation Dieu et son peuple, même dans le Nouveau Testament, entre l'Église et le Seigneur, c'est comme l'épouse du Seigneur. Et cette épouse du Seigneur, son peuple Israël, est devenue infidèle. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle une prostituée. Parce que non seulement elle a fait des actions qui n'étaient absolument pas justes, on le voit que la ville qui était remplie d'équité, verset 21, est maintenant plein d'assassins. Ça d'une part. Et d'autre part, il y a l'idolâtrie que l'on va voir à la fin de du chapitre. Donc il y a la désobéissance, il y a l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quand on place tout son bonheur, toute sa confiance ailleurs qu'en Dieu. Son langage est toujours rempli d'images. Et il, pour essayer d'expliquer ce qui se passe dans le pays, au verset 22, il dit « Ton argent est devenu des scories. Donc, ça veut dire que c'est un produit sans valeur. Donc, définition des scories selon le dictionnaire, une substance terreuse ou pierreuse vitrifiée qui monte comme une écume à la surface des métaux en fusion. Ça veut dire qu'il y a des impuretés dans le métal dont on peut enlever avec la chaleur. Quand le métal est porté à la fusion, quand ça à fondre si on veut. Et donc, ton argent est changé en scorie, ça veut dire que le peuple est impur. Ton vin était coupé d'eau, bon, dilué avec de l'eau, donc ça manque de saveur. Les gens font des choses, mais ça manque de saveur. Et pourquoi? Parce que les chefs d'abord, et souvent les prophètes s'adressent aux chefs, sont rebelles, complices des voleurs, et acceptent les pots de vin. Bon, ça c'est clair. Tous aiment les présents, courent après les récompenses, ce qui fait que les orphelins et les veuves qui auraient besoin d'être soutenus par les juges ne le sont pas, parce que les autres ont plus d'argent pour acheter les juges. Toute ressemblance à des situations aujourd'hui est purement fortuite. Donc dans cette situation-là, on va dire, que pense le vrai chef? Parce qu'on parle des chefs qui sont rebelles, mais le vrai chef, et il parle au verset 24, « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël, celui qui est puissant, je tirerai satisfaction de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis. » Parfois, j'aime bien chercher d'autres traductions parce que ça aide à comprendre. Le sommeur dit, « Je vous ferai payer. » Le second 21, « Je prendrai ma revanche sur mes adversaires. » On peut dire que c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Parce que dans un monde aujourd'hui où il y a terrorisme, il y a parfois les grandes entreprises qui ne paient pas assez d'impôts, où il y a de la violence, il y a quelqu'un au-dessus qui sait. Alors que la plupart des gens autour de nous, à la limite, ils se disent, si seulement il y avait quelqu'un qui puisse juger tout cela. Mais il y a quelqu'un qui juge. Le seul petit problème, c'est qu'il juge tout le monde. Pas seulement ceux qui sont vus ou considérés comme étant les coupables. On est tous coupables. Donc, Dieu va venger, se venger dans le sens où il va faire éclater le fait que lui a été insulté dans ce sens. Quand on lui tourne le dos, c'est une immense insulte. On n'a qu'à réfléchir quelques instants. Le Dieu qui a créé l'univers entier avec des milliards d'étoiles, un petit être humain, qui ne fait même pas 2 mètres de haut, lui tourne le dos et dit, je veux vivre comme je veux. C'est tellement ridicule. Mais c'est une insulte. Et Dieu va se venger de cela. Mais c'est à ce moment-là que cette vision future commence à se mettre en place. Parce qu'il dit, je porterai, au verset 25, je porterai ma main sur toi, et je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Dieu va purifier. Seulement, quand on purifie, il y a aussi le jugement, il y a aussi ce feu brûlant qui fait en sorte que le métal est purifié. Et Dieu parfois va utiliser les épreuves, même dans le cas d'Israël, la déportation pendant 70 ans, pour que cette scorie remonte à la surface et qu'il soit purifié. Et ces deux aspects de l'Éternel sont tellement, tellement clairement dits dans Ésaïe que c'est vraiment le Nouveau Testament qui se pointe, comme on va voir. Je pense par exemple au chapitre 60 et le verset 10. « Je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. » Donc les deux choses sont là. Je t'ai frappé dans ma colère. Donc la colère, c'est la sainte opposition de Dieu à tout mal. Mais dans ma miséricorde, j'ai piété de toi. Et on peut dire, mais comment est-ce que c'est possible? Et on voit que dans le projet de Dieu, tout va bien se passer. Il parle même au verset 26 de rétablir des juges justes, des conseillers tels qu'ils étaient autrefois, et justement, on appellera la ville la justice cité fidèle. Mais le verset 27 est extrêmement intéressant à ce sujet. Il dit, car Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Donc je rappelle que Sion, c'est Jérusalem, hein, que l'on comprenne bien. Sion égale Jérusalem. Je suis obligé de le dire parce que pendant 20 ans, j'habitais en Lorraine et on avait la colline de Sion. Et quand un ancien parlait de Sion, on voyait cette colline à mi-distance entre Nancy et Metz. On ne savait pas des fois que Sion voulait dire Jérusalem dans la Bible. Colline importante pour moi d'ailleurs, parce que c'est sur cette colline que finalement devant le Seigneur j'ai accepté de lancer en fait l'église qui est devenue l'église de Vendeuve sur la colline de Sion et dont on va fêter les 40 ans dans 15 jours, donc je serai à Vendeuve dans 15 jours pour les 40e anniversaire de l'église. Je ferme la parenthèse sur Sion. Sion c'est donc Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on lit? Sion sera sauvé par la droiture, ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Ça veut dire quoi? Le Nouveau Testament nous dit, Romains 3, verset 23, Romains 3, 23, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, comment être sauvé par la justice? Ce n'est pas possible. À moins que ce soit la justice d'un autre. La justice, en fait, de Jésus mort en portant nos péchés. Et Ésaïe, on l'a dit la semaine dernière, c'est comme le cinquième évangile, parce que tout de suite, ici, au premier chapitre, on commence à lire un peu entre les lignes. Voilà, le salut vient d'ailleurs. Sion sera sauvé par la droiture, sauvé par la justice, mais pas leur propre justice. Ça, on va comprendre plus tard. La justice de Dieu même. J'ouvre une petite parenthèse supplémentaire. En préparant ce texte, j'ai commencé à rêver. En quelque sorte en disant, ah bah, et si on vivait comme dans la synagogue, où les rabbins, les érudits, décortiquaient, disséquaient des versets pendant des heures pour essayer de bien comprendre. Parce que là, j'ai passé vite pour dire qu'ils sont sauvés par la justice d'un autre. Il y a toute une partie grammaticale, lexicale, qui permet d'aller dans ce sens. Hein. Donc j'ai cherché dans des commentaires assez érudits par rapport à cela. On a compris l'essentiel, mais parfois je rêve hein, qu'on soit là assis pendant des heures à décortiquer ces textes, parce que nous sommes une religion, une foi, une église, je ne sais pas quoi, basée sur la révélation. Même aujourd'hui, dans les synagogues, il y a des pièces réservées à l'étude, on appelle ça « Beit Midrash », la maison d'étude ou la maison d'exégèse. Mais ce n'est plus malheureusement autant dans l'air du temps d'une église évangélique. Et on va souvent dire, ah ben, ce qu'on dit est trop intellectuel. Et moi je dis le contraire, on n'est pas assez intellectuel. On reste trop dans les sentiments. On reste trop dans l'émotion. On n'est pas assez intellectuel. Dieu nous a donné des textes à décortiquer, à étudier, à comprendre. Et ça, c'est pour moi une conviction de plus en plus forte. Depuis quelque temps, je suis dans un groupe WhatsApp. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous l'expliquerai après, avec un certain nombre de personnes. Et récemment, une des filles dans le groupe a envoyé une photo en disant « Je viens de lire mon premier livre apologétique. Regardez toutes les notes que j'ai. » Donc, il y a une photo, bien sûr, de son livre. Apologétique, ça veut dire la défense de la foi. On réfléchit, on comprend, on est dans un monde où les autres réfléchissent. D'ailleurs, un grand historien de l'Église a expliqué la raison pour laquelle l'Église s'est répandue dans le bassin méditerranéen et partout dans le monde en disant l'Église a réussi à s'implanter partout dans le monde parce que les chrétiens ont mieux aimé et mieux réfléchi que les autres. Et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, c'est mon petit rêve. On essaie de le faire un peu le mercredi soir à l'étude biblique. Mais j'aurais bien voulu de pouvoir dire, après la réunion d'église, ceux qui veulent rester pendant 4 ou 5 heures pour étudier uniquement Ésaïe 1 et le verset 27, vous êtes les bienvenus. Mais voilà, je ferme la parenthèse de rêve. Et je reviens au texte, où maintenant on va dans l'autre sens. Dieu pardonne, purifie, sauve et restaure, mais certains périront. Certains périront. La ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, donc qui n'ont pas accepté qu'ils étaient pécheurs. Ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Et même à la fin, ils disent, on aura honte à cause de l'idolâtrie. Donc, quand on parle des térébintes, c'était certainement les petits. Enfin, les bosquets d'arbres sous les hauts lieux, où on allait adorer les faux dieux. Les jardins de délices, c'était des lieux à part, où les gens allaient adorer les faux dieux, les idoles, etc. Et il dit non, ils auront honte. Mais pourquoi l'ont-ils fait? Là encore, quand on étudie l'histoire, on comprend ceci. Dans toutes les cultures, à toutes les époques, tout le monde savait qu'il y avait un Dieu au-dessus, le grand Dieu, le Dieu de l'univers. Mais on a commencé à se dire, c'est bien, il s'occupe de mettre l'univers en place, mais si je veux que mes champs soient fertiles, que mes bêtes soient fertiles, que ma femme soit fertile, il vaut mieux que je m'adresse aux petits dieux, aux idoles des champs, du ménage, enfin, etc. Donc, on se détourne du Dieu pour les choses pratiques. Et même dans tout cela, on se donne non seulement à l'idolâtrie, mais à l'immoralité. Parce que souvent dans les temples, on mimait ou plus l'acte sexuel en disant que ça va plaire au Dieu pour que mes champs soient fertiles. Et donc on se détourne du vrai Dieu en voulant, en se disant en quelque sorte. Dieu, c'est très bien. Je viens à lui le dimanche. On l'a vu la semaine dernière, hein, donc la façade religieuse. Je viens à Dieu le dimanche, je chante, c'est très bien. Et après, dans la vie, c'est moi qui dois me débrouiller. Si je m'adresse à autre chose, c'est moi qui dois me débrouiller. Et on peut se demander dans ce sens-là, si finalement, il y a. Si c'est la poule ou l'œuf. Je vais juste lire quelques versets là. Pas vers quelques versets, un bout de page dans mon livre sur l'athéisme, Un regard chrétien. Donc, c'est une question que j'adresse aux athées à la fin de ce livre. Une question d'honnêteté. Dans quelle mesure les choix éthiques l'emportent-ils sur la rigueur intellectuelle? Loin de moi de dire que les athées n'ont pas de valeur éthique. Que la position athée soit cohérente ou non, n'est pas la question ici. Il s'agit plutôt de la prise de conscience que l'existence d'un Dieu à qui l'on aurait des comptes à rendre est très gênante pour celui ou celle qui entend mener sa vie à sa façon. Et se convaincre que Dieu n'existe pas arrange bien les choses. Je pense par exemple, mais pas seulement, à la sexualité. Depuis Diderot, qui a publié un roman érotique, anonymement, et le marquis de Sade, en passant par des philosophes plus récents comme Camus ou Sartre, qui ne cachaient pas leur libertinage, jusqu'à Michel Onfray qui fait l'éloge de l'hédonisme, le rapprochement athéisme-liberté sexuelle est indéniable. On ne peut pas s'empêcher de poser la fameuse question de l'œuf et de la poule, qu'est-ce qui est apparu en premier ? Et serait-il possible que l'engouement pour la liberté l'emporte sur la rigueur intellectuelle dès qu'il s'agit de l'existence de Dieu ? Ça veut dire qu'on dit que Dieu n'existe pas, ça nous arrange, on peut faire ce qu'on veut. Alors, avec tout cela, à la fin, le verset 31, nous avons ce texte. L'homme fort sera comme de l'étoupe, son œuvre comme une étincelle, ils brûleront l'un et l'autre ensemble, il n'y aura personne pour éteindre. Je ne sais pas si vous savez ce que l'étoupe, je voulais être sûr, donc j'ai cherché encore sur le dictionnaire. C'est un sous-produit issu essentiellement du travail du chanvre et qui sert dans les techniques de production du feu en fixant les étincelles produites par diverses techniques. Friction, percussion, silex, etc. Donc, ce produit-là fixe l'étincelle pour que le feu prenne. Et Esaïe était en train de dire, ces gens-là dans l'idolâtrie, ils vont rougir parce que ça ne marche pas, et de toute façon, tout cela va être brûlé, l'un et l'autre, avec personne pour éteindre. C'est ce qu'on a vu au verset 28, mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. Jusque-là, on a 5 versets que l'on va ajouter. On peut se poser la question, alors, c'est quand tout ça ? C'est arrivé quand ? Est-ce que c'était dans l'histoire du peuple d'Israël, ou est-ce que ce n'est pas encore le cas ? Un petit peu les deux. D'abord parce que, après leur déportation à Babylone, le peuple a vraiment abandonné l'idolâtrie. Ce n'était pas un peuple parfait, mais il n'était plus dans l'idolâtrie. Et à certains moments de leur vie, la vie sociale marchait mieux. Mais en fait, c'est l'attente, l'espoir du rétablissement du royaume davidique, donc le royaume de David. C'est cette espérance. David, c'était le roi. Le roi est celui qui a reçu l'onction. Celui qui reçoit l'onction, en hébreu, ça veut dire Messie ou Christ. Donc, c'est l'attente du Messie. Ici, c'est l'attente du Messie, en fait. Et nous, on sait que le Messie, c'est Jésus, le Messie. Ou en grec, Jésus, le Christ. Ce qui fait que les versets que l'on va lire maintenant sont le prolongement de ce qu'on va voir, mais qui ont c'est une vision grandiose avec une perspective apocalyptique. Ce n'est pas dans ce monde maintenant que ça va se passer. Aussi, ça va commencer à se passer maintenant, mais c'est pas encore réalisé. Alors, je vais lire donc la fin de ce texte, Esaïe 2, 1 à 5. Prophétie d'Esaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, et de leurs glaives ils forgeront des joyaux, de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Vision grandiose. Ah, c'est pas la fin en fait. Bizarre, parce qu'en principe, il y en a plus, mais bon. Non, j'ai rien. Si ? Oh là là, en tout cas. Non, descends, 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 descends. Voilà, c'est ça.
Je sais pas, il y a un bug là.
Il y a un bug. Ok, bah, mets-le comme ça. Est-ce que vous allez survivre votre cul en regardant l'écran comme ça? Donc on l'a ici. Donc c'est moins grand, mais c'est une vision grandiose qui comporte trois aspects. L'Éternel sur le sommet de la montagne, à la place de tous ces hauts lieux où on montait, adorer les idoles au haut des montagnes. Toutes les nations y afflueront. Bon, j'ai mis les références de la Genèse, Genèse 12 en fait, Genèse 12, 2 et 3, et 22, 16 à 18, que toutes les familles de la terre seraient bénies en Abraham et ses descendants. Donc l'évangile, on sait maintenant, ce n'est pas, c'est pour tous les peuples de la terre. Donc quand on voit que tous les peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel », ça se réalise aujourd'hui. On a vu les chiffres la semaine dernière à la réunion de prière du nombre de chrétiens dans le monde qui augmente continuellement. Et il y aura un temps de paix universelle et... Sans être trop pessimiste, je pense que ça ne sera pas avant la fin du monde, ce ne sera pas avant le retour du Seigneur. Donc il y a tout ce côté apocalyptique. On sait que Dieu va intervenir et qu'il y aura un moment où tout changera, où il y aura la paix, où selon cette image très forte d'Ésaïe, les nations vont... de leur glaive faire des socs de charrues et de leur lance des serpes. Donc des serpes, hein? C'est pas encore le cas. Mais s'il y aurait des serpes dans l'Apocalypse, c'est pour couper la vigne, donc on peut supposer qu'il y aurait du vin dans l'éternité. Enfin, c'est une image. C'est une image. Donc, mais cette vision est extraordinaire. Et si, en tant que petite église, et toutes nos églises, on reste simplement dans la faiblesse et la petitesse que l'on est, c'est normal, parce qu'on est dans le déjà, mais pas encore. Alors, trois conclusions de cela, comme pour Israël, que pour nous. Première conclusion, que c'est un message inclusif et exclusif à la fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce message s'adresse à toutes les nations. Donc c'est inclusif, personne n'est exclu. Mais c'est exclusif dans le sens où cette unité des peuples ne se fera que lorsque les gens montent à la montagne de l'Éternel. C'est en tournant vers Dieu, c'est comme l'Évangile. L'Évangile s'adresse à tous. Donc c'est inclusif. Mais pour ceux qui n'y croient pas, ils sont exclus. C'est donc exclusif. Et on entend souvent, quelqu'un me l'a dit la semaine dernière, ah, le message de l'Évangile, c'est clivant. Ben oui, c'est clivant parce que ça fait des divisions. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas. Ce n'est pas que les chrétiens méprisent les autres. Il faut aimer tout le monde, il faut aimer son prochain. Mais c'est quand même un message clivant. Et quelqu'un d'autre qui m'avait dit il y a quelques mois, c'est un message enfermant. Oui, dans ce sens. Mais c'est ça la bonne nouvelle. Ça, cette bonne nouvelle s'adresse à tous. Mais en même temps, on n'a pas le droit de dire que tout le monde est sauvé, quoi qu'il fasse. Il n'y a qu'en Jésus qu'on est sauvé. Deuxième chose, Israël et donc l'Église doit donner le bon exemple. Ce qui est intéressant, c'est que au début de ce texte, les peuples disent « Venez et montons à la montagne de l'Éternel. » Donc il faut aller vers Dieu. Mais Israël s'adresse Ésaïe s'adresse à Israël pour dire « Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Donc c'est quand les chrétiens marchent déjà à la lumière de l'enseignement biblique, on cherche à comprendre et le vivre à la lumière de Dieu, que on est le bon panneau indicateur, le bon signe pour les gens qui cherchent, pour que eux ils viennent et monter, pour monter à la montagne de l'Éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je reviens à ce verset que je cite tellement, tellement souvent, parce que c'est gravé dans mon cœur. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Sinon, les gens vont dire, bon, vous vous comportez comme tous les autres. Et accepter d'accueillir ceux que le Seigneur a accueillis, c'est le seul signe donné par Jésus de véritable Église, de nous accueillir les uns les autres tels que nous sommes. Et puis la troisième chose, c'est que ce texte oriente notre regard vers l'aboutissement de l'histoire. Il y a plein d'autres textes dans Ésaïe, comme on va voir par la suite, où il en parle, avec cette vision de tous les peuples qui sont invités à monter aussi, chapitre 19. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Quelle vision dans la situation politique de cette époque. Ou le chapitre 25, 6 à 9. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés, pour tous les peuples. Et puis les deux autres références, chapitre 65 et chapitre 66, c'est la prophétie qu'il y aura de nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habitera. Et que Dieu va recréer une nouvelle existence où on habitera éternellement. Ça, c'est une perspective extraordinaire qui fait que l'on doit orienter nos regards vers cet avenir. L'histoire a un sens, a une finalité. L'histoire n'est pas cyclique non plus. L'histoire a un aboutissement que Dieu prépare pour ceux qui sont sauvés. Donc, tout cela, on le voit déjà en filigrane dans Ésaïe. Peut-être qu'il n'aurait pas tout compris de tout cela, ni le peuple. Mais il a écrit, inspiré par le Seigneur, et maintenant nous, à la lumière de Jésus, on peut le comprendre, et on peut le vivre, et on peut avoir cette orientation de notre regard vers l'avenir, parce que le meilleur est toujours devant nous. Seigneur, c'est tellement riche, il y a tellement de choses à dire sur seulement quelques versets. Seigneur, aide-nous à retenir l'essentiel, à retenir ce qui nous concerne, pour que nous puissions continuer à marcher dans l'histoire que tu as préparée pour notre vie individuelle et pour notre Église. Parce que nous faisons partie de ton peuple racheté en route pour l'éternité. Nous te remercions pour cela. C'est par pure grâce, ce mot qui était la fin du psaume 33 qu'on a lu tout à l'heure. Merci Seigneur, parce que tout est par grâce. Nous te remercions donc au nom de Jésus. Amen.